Europe Soir, le 18-20, Julien Bugey.
18h32, le débat des grandes voix du mercredi avec ce soir à mes côtés Catherine Ney. Bonsoir Catherine.
Bonsoir Julien, bonsoir
Louis
tout le monde.
Louis Dragnel, chef adjoint du service politique d'Europe 1. Bonsoir Louis.
Bonsoir Julien.
Et Henri Vernet, ravi de vous accueillir Henri. Bonsoir, rédacteur en chef adjoint au Parisien. Éric Zemmour, candidat à la présidentielle. On en parle donc ce soir car c'est une petite musique qui monte depuis plusieurs semaines. Et voilà qu'un sondage IFOP nous dit maintenant que 13% des Français se disent prêts à voter pour le polémiste s'il se présente. Pour l'instant, il maintient le mystère, mais en coulisses, il préparerait, dit-on, le terrain et ses soutiens. Je vous propose d'écouter cet échange pris sur le vif entre Alain Duhamel, Éric Zemmour et Anaïs Bouton, la présentatrice de Zemmour et Nolo sur Paris Première. C'était il y a quelques jours.
Je ne dis pas Éric Zemmour va être candidat. Je dis il y a des gens qui ont envie qu'Éric Zemmour soit candidat.
C'est pas ici aujourd'hui que je vais le dire, mais j'écoute l'analyse. C'est pas une réponse que je vais donner là maintenant.
Alors, on va parler des intentions de vote. 13%, finalement, ça n'est pas si important. On va expliquer pourquoi. D'abord, est-ce que vous y croyez, vous, à Éric Zemmour, candidat à la présidentielle, Catherine Ney ? Pas du tout.
Pas du tout. Non, enfin, je pense que, vous savez, il est peut-être un peu guetté par l'hubris. C'est quelqu'un qui est typiquement un soliste, qui parle, qui a un corps de doctrine, qui ne fait pas une politique. Qui a réussi une chose assez étonnante, c'est que de faire passer l'émission le soir sur CNews de 80 000 auditeurs à multiplier par 10.
Oui.
Donc c'est une attraction. C'est quelqu'un... Alors vous savez, quand vous êtes célèbre et que vous allez signer vos livres et tout ça, les gens vous disent « Ah, monsieur Zemmour, là, vous dites des choses que les autres ne disent pas. Tiens, vous devrez vous présenter. » Alors, évidemment, ça donne envie, on peut laisser le mystère. Mais qu'est-ce qu'il y gagnerait ? Qu'est-ce qu'il y gagnerait ? Parce qu'à partir du moment où il est candidat, il faut animer une équipe, ce qu'il n'a jamais fait.
Oui, mais c'est l'ambition du pouvoir, vous savez, il n'y a pas toujours de rationalité.
Ben oui, mais enfin, d'abord, alors les choses pratiques se posent quand même. Il faut d'abord une équipe, il faut un programme, et énoncer des choses sur lesquelles on est contre, déplorer que la France est en déclin, enfin tout ce qui est aujourd'hui son patrimoine culturel. Après, eh ben, il faut le traduire en... Il faut le traduire en programme.
Alors, on va en parler. Henri Vernet, d'abord, vous y croyez, vous, ou ça va faire pchit, cette histoire-là ?
Je pense que ça fera pchit, parce que lui-même, je ne suis pas sûr qu'il ait vraiment envie et qu'il ait envie d'aller au bout. Maintenant, clairement, on l'entendait d'ailleurs dans cet extrait, il est content qu'on y pense pour lui.
Ça
peut compter, parce que qui sait si à un moment, quand tout le monde vous pousse comme ça, quand vous vous sentez, comment dire, tellement aimé, tellement demandé, tellement sollicité, alors certes par un camp bien précis, par des personnalités bien précises, bien individualisées, néanmoins ça peut vous griser, ça peut vous monter à la tête, et puis pourquoi pas
on
se faire prendre...
On cède à la pression affectueuse.
Exactement, voilà. Exactement. On se sent comme ça, d'un seul coup, un candidat, pourquoi pas, tout à fait crédible. Après tout, c'est vrai qu'on est dans un, comment dire, depuis quelques années, de toute façon, il y a de telles surprises, un paysage politique est tellement chamboulé, des personnalités qui arrivent comme ça, bon, on va pas se reciter Trump, Bolsonaro, Salvini en Italie, des gens qui viennent un petit peu, en tout cas, hors du système, ce qui est moins le cas d'un Salvini. Ce genre d'aventure, après tout, pourrait se tenter. Est-ce qu'un Zemmour qui a ce parcours, alors je suis tout à fait d'accord avec Catherine Ney, c'est qu'il y perdrait beaucoup dans son style de vie, dans la manière dont
mais
dont
c'est
il
vrai
est positionné.
L'idée d'un candidat issu de la société civile,
de la
plutôt
au dépend
des populistes, est en train
ça,
de monter un peu
partout. Qui viendrait comme ça.
En Europe. Pas. Alors, Louis Dragnel, je vous donne la parole, mais j'ajoute simplement sur les intentions de vote, ça vaut ce que ça vaut, un sondage à l'instant T, on connaît la chanson. Jérôme Fourquet ajoute tout de même qu'il se situe, en fait, Éric Zemmour, 13%, ça peut paraître important, mais il se situe en fait au même niveau que Jean-Marie Bigard,
c'est tout dire.
Et un peu plus haut que Michel Onfray, mais beaucoup plus bas que le général Pierre de Villiers, qui est tout de même à 20%.
Moi, je trouve que ce qui est intéressant dans ce sondage, c'est que ça montre vraiment que quelqu'un peut avoir un public dans les médias, peut écrire des livres et qu'il puisse être bien acheté. Mais c'est une chose d'avoir un public, c'en est une autre, en fait, d'avoir des électeurs.
Oui.
Parce qu'effectivement, et c'est là où je rejoins l'analyse de Catherine Ney, c'est qu'une fois qu'on a un public, on fait des belles audiences, qu'on peut s'exprimer de manière très libre, c'en est une autre ensuite de faire rentrer dans la réalité, dans le concret, dans un programme. C'est très difficile en fait de faire un programme parce qu'il y a des contraintes législatives, il faut absolument réussir à rassembler. Et jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, ceux qui ont remporté la campagne présidentielle sont toujours des gens qui ont essayé de rassembler. Et aujourd'hui, on voit bien que Éric Zemmour rassemble une partie, un camp très précis, bien défini. Mais je ne vois pas une ambition d'essayer d'élargir encore plus le spectre et de s'élargir à d'autres électeurs.
En tout cas, il pousse une idéologie. il participe à une petite musique. Vous parliez de ses audiences tout à l'heure, qui vont plutôt dans le sens du Rassemblement national. De ce point de vue-là, je pense que tout le monde est d'accord. Donc, à défaut d'être lui-même candidat, il a envie quand même de jouer un rôle, Éric
Mais
Zemmour.
C'est ça. Parce qu'on n'est pas forcément candidat pour gagner. Donc, je suis votre raisonnement, c'est qu'en effet, ce n'est pas un candidat rassembleur et donc il est trop clivant pour accéder, ne serait-ce qu'à, enfin, ne serait-ce que pour accéder au deuxième tour. En revanche, il peut porter un débat, il peut porter des idées. En quelque sorte, c'est un peu un Steve Bannon quoi, de la scène politique française. Et donc, là-dessus, il sera suivi, il sera agitateur. Et puis, à la fin, de toute façon, ce sera tout bénéfice pour lui. Parce que même s'il ne se lance pas dans la course, eh bien, vous parliez de ses succès en librairie, on peut être assuré que dans ce cas-là, il n'aura fait qu'accroître sa notoriété, qu'il aura un petit peu agité le débat. Et donc, son prochain bouquin se vendra encore mieux. Donc, oui, se sera valorisant en quelque sorte.
Oui, ou on peut plaider le contraire aussi, il se sera grillé.
Réellement, si c'est une vraie candidature, si c'est comme ça, voilà, je laisse passer le temps et puis à un moment je me lance et puis très vite je m'arrête, comme on l'a vu. Bon, là on citait Bigard qui n'est même pas allé dans la course. Mais enfin, on a vu des personnalités, Coluche sur un autre registre il y a des décennies, y aller et puis se retirer quand même beaucoup plus tard. Donc il a le temps quand même de marquer un peu le terrain sans bien sûr se lancer dans une vraie.
Enfin, on lui a fait dire déjà à CNews que s'il était candidat, il n'aurait plus sa tribune à CNews et on lui a fait dire au Figaro qu'il n'aurait plus de tribune.
C'est tout à fait normal.
Alors maintenant, après, il faudrait causer, il faut organiser des réunions, il faut tenir des meetings, il faut avoir des groupes derrière, il faut avoir de l'argent, il faut avoir tout ça. Et puis, vous voyez bien que c'est impossible.
Être candidat à la présidentielle, ça gagne moins que de faire de la télé
et des
éditos dans la presse, Louis de Ragnel.
Et puis c'est un changement de vie qui est quand même très difficile. C'est-à-dire que là, jusqu'à aujourd'hui, je ne dis pas que sa vie est simple parce qu'il est menacé, qu'il prend des coups également. Mais en fait, passer dans le monde politique et aller sur le terrain, organiser, structurer une équipe, un programme et tout ça, en fait, c'est très difficile. C'est beaucoup plus compliqué que de s'exprimer pendant une heure tous les soirs ou même d'écrire des livres. Ça n'empêche pas le fait que c'est difficile d'écrire des livres. Mais du coup, la difficulté, elle se trouve quand même aussi ici. Et c'est là où je vous rejoins tout à fait. Je ne sais pas s'il a réellement un intérêt, en fait, même personnel, à y aller. En tout cas, ce qu'on peut juste dire aussi, c'est que son opportunité, c'est que les thèmes qu'il défend, en fait, depuis des années aujourd'hui, sont quand même dans les sujets de préoccupation des Français. Et je pense que c'est ça qui participe à son succès médiatique. Voilà. Mais ça reste encore médiatique
C'est la différence. Parler à longueur de temps d'affaiblissement de la France, sur ce tout le monde est d'accord, ne fait pas forcément un programme.
Absolument.
J'amène un petit bémol quand même à ce que vous dites, c'est-à-dire que son socle de lecteurs, son socle, son public, il l'a toujours eu quand même. Quand on regarde les intentions de vote, il avait été testé en 2015 par exemple, il était à 11%, il était à peu près pareil. Donc vous avez raison de dire qu'il y a des sujets qui se sont invités aujourd'hui dans le débat public, mais quand même, il a toujours eu le même socle.
Oui, mais pardon, mais deuxième bémol, je vous suis tout à fait sur le premier. Et le deuxième, c'est que vous avez raison, c'est extrêmement difficile une candidature, c'est du monde, c'est de l'argent, c'est des moyens considérables, c'est des structures. Mais justement, l'idée, c'est que s'il y allait, encore une fois, je mets ça de manière totalement hypothétique, et il faudrait qu'il se laisse un petit peu avoir, en quelque sorte, par ses admirateurs ou ses adorateurs. Mais il bénéficierait, l'idée, ce serait que, en quelque sorte, il rassemblerait tout ce qui, à la droite extrême, au souverainisme extrême, ne veut pas de Marine Le Pen parce qu'il ne croit plus en elle. Donc, il y aurait quoi ? Il y aurait les Ménard, il y aurait pourquoi pas les Marion Maréchal. Il y aurait, disons, les camps, les troupes de tous ces personnages-là qui se mettraient au service, que ce soit Zemmour ou que ce soit au final quelqu'un d'autre, mais donc qui pallierait ce qui lui manque actuellement.
Bien. On passe, si vous le voulez bien, au vote anticipé pour la présidentielle. Bonne idée ou pas ? En tout cas, ça fait polémique. Alors, de quoi s'agit-il ? Eh bien, dans un projet de loi, le gouvernement a déposé un amendement destiné à permettre le vote par anticipation, ce qui serait évidemment une première en France. L'idée est de permettre aux Français de voter en amont du jour de l'élection. Aurélien Pradier, secrétaire général des Républicains, disait par exemple ceci à propos de cette proposition. C'était ce matin chez nos confrères de BFM.
Je n'y suis pas favorable. D'abord parce que personne n'a travaillé sur ce sujet. On a découvert cet amendement. Je ne comprends pas très bien comment on peut tester une disposition nouvelle électorale sur une élection présidentielle.
Alors, personne n'est pour, d'ailleurs, que ça va du Rassemblement National à la droite républicaine, aux socialistes, en passant par LFI, personne n'est pour. Pourquoi cet amendement un peu surprise, à votre avis, Catherine Ney, dans ce projet de loi ?
Ça, je me demande. Alors, c'est vrai que le président a demandé au gouvernement, au ministère de l'Intérieur, de réfléchir à une modernisation du vote, peut-être les machines à voter, et peut-être...
Il y a quelqu'un qui en avait parlé, c'est François Bayrou qui avait réclamé ça depuis longtemps en demandant le vote par correspondance pour les régionales et pourquoi pas pour la présidentielle.
Mais c'est d'autres choses.
C'est pas
la même chose.
C'est pas tout à fait la même chose,
Du tout la même chose, c'est le vote anticipé. Alors par exemple, le vote anticipé, c'est ce qui s'est passé aux États-Unis ou pour voilà, et le dépouillement s'est fait tardivement, et c'est et donc pèse sur ce vote là alors que les Américains sont pas manchots en matière d'électronique, ça la fraude, l'idée qu'il y a une fraude pèse encore dans la tête de nombreux Américains.
Mais il n'y a pas eu de fraude. En réalité,
il n'y a pas eu de fraude. Il n'y a pas eu de fraude, sauf que quand vous votez par anticipation, et ça c'est ce que l'on suspecte chez plusieurs politiques, c'est que les gens qui votent, ils votent bien, ce sont bien eux qui ont voté, mais qui vous dit que il n'y a pas quelqu'un qui les... Il y a une forme de communautarisme qui les ait forcés à voter comme ça. Même si on peut dire, c'est bien eux, ils ont bien voté. Vous voyez, donc il y a une suspicion de manipulation. Alors évidemment, le gouvernement voit au contraire l'idée que c'est pour éviter les abstentions, qu'il y a des gens qui veulent partir en vacances les jours où... Bon, ça peut être là, mais je veux dire, en tous les cas, ce changement, ça se prépare.
Oui.
Ça se discute,
oui.
On consulte, et là, on ne l'a pas fait.
Alors, je vous donne la parole, messieurs, dans quelques secondes. On marque simplement une pause, un instant, 18h43, et on se retrouve pour parler de cette polémique autour du vote anticipé. Donc, à tout de suite.